Je ne sais pas si vous avez reconnu la scène du film. Non. Non, vous n'avez pas cette culture. Houston, we have a problem. Si, si. C'est Apollo 13. Et ensuite, ils vont se cracher. Depuis, c'est devenu une phrase culte, un peu, une de ces phrases qu'on sort tout le temps. Houston, Houston, we have a problem. C'est un peu le thème de notre message ce matin. Houston, Houston, we have a problem. Alors, comme vous le savez, généralement, ce genre de phrases, elles sont reprises à différents moments. Donc là, c'est Tom Hanks dans le film Apollo 13. Toujours dans le monde des astronautes, on peut aussi voir que là, il souffre d'un grave problème. Ça, c'est plus une scène de la vie quotidienne. Ça nous arrive à tous, visiblement. Généralement, Houston s'est remplacé par Sherry, ou bien je ne sais pas quoi. Donc, nous sommes confrontés, et puis on retrouve cette phrase qui va un peu nous guider. Houston, Houston, we have a problem. On s'est quitté la semaine passée sur cette belle image du jardin d'Eden. Alors, j'en ai une photo exclusive de ce jardin. C'est celle-ci que je vous présente derrière moi. C'est beau, hein? Moi, je crois que pour les gens de la côte, le jardin d'Eden, c'est un peu ça. C'est une maison à Marseille avec une belle piscine, un climat agréable, des arbres, de la verdure. C'est presque un peu le jardin d'Eden, on se sent bien. On est presque en plénitude dans ces cadres-là. Et c'est là qu'on est resté la semaine passée, dans ce jardin, où on s'est rendu compte que Dieu était à l'origine, non pas de cette belle maison marseillaise, mais Dieu à l'origine de notre identité en tant qu'être humain. C'est Dieu qui nous a façonnés, nous tous les Adam, toutes les Ève, qui nous a façonnés de la surface de la terre, qui nous a placés dans un jardin, ce jardin d'Eden, un lieu d'abondance, un lieu de vie, un espace au sein duquel quatre fleuves coulent, qui symbolisent bien la vie qui découle et qui sort de cet endroit où Dieu nous a placés dans sa toute volonté et dans sa toute puissance. Il donne une mission: cultiver et garder cette terre, cultiver et garder cet endroit là où il nous a placés. Et il place deux interdits: ne pas toucher à l'arbre de la vie et ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deux arbres qui symbolisent deux réalités qui, dans la volonté de Dieu, dépassent finalement les capacités de l'homme, la connaissance du bien et du mal et la connaissance, la maîtrise de la vie et de la mort. Pour lui, ces deux éléments qui dépassent, qui vont au-delà des capacités que l'homme est capable d'assumer finalement. C'est pour ça qu'il lui donne la mission simplement de cultiver et garder cette terre, qui est déjà une mission conséquente, on l'a vu. Et il considère aussi, dans Genèse 2, que l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Alors il le fait tomber dans un profond sommeil, et il tire de sa côte une femme qui va s'appeler Ève. Et toujours à partir de la terre, il façonne tous les animaux et les amène vers Adam, dont la seule mission, qui nous est dite dans Genèse 2, tout là c'est Dieu qui a l'œuvre, et la seule mission qui est confiée à Adam, c'est de nommer un à un tous les animaux. Ça, c'est une mission encore qui lui est confiée, et c'est ce qu'il fait. Il nomme un à un tous les animaux. Et il prononce ses premières paroles, Adam, pour décrire son nouveau statut d'un être qui est accompagné par un vis-à-vis, sa femme Ève. C'est ses premières paroles qui sont adressées devant Dieu à sa femme, ce qu'on trouve dans Genèse à la fin du chapitre 2. Dernière chose, ils sont tous les deux nus et ils n'en ont point honte. Voilà le cadre dans lequel nous partons et duquel nous continuons de partir. Ce cadre de la création, il reste valable pour nous. On est dans cette série un peu de prédication, de revisiter les bases de la foi, ce qui forme notre identité de chrétienne, de chrétien. Et là, c'est vraiment ce cadre que Dieu veut pour nous, ce cadre bienfaisant, ce cadre où on se sent bien. On essaie une petite analogie avec la villa marseillaise. Et voilà que nous arrivons à ce fameux chapitre 3 que nous allons lire quasiment en intégralité maintenant. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme: « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit « ne mangez aucun fruit du jardin » ?» La femme répond au serpent: « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ses fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez alors comme des dieux et vous pourrez savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. La femme se dit, effectivement, les fruits de cet arbre sont plutôt beaux. Ils doivent être même très bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle et, en toute soumission, il en mange aussi. On ne devrait pas rajouter un truc. Alors, leurs yeux s'ouvrent et maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre et cela leur sert de pagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui, parmi les arbres du jardin. Le verset central de ce passage, le Seigneur Dieu appelle l'homme et il lui demande, « Où es-tu ? » L'homme répond, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu. Alors je me suis caché. » Le Seigneur Dieu lui demande, « Mais qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger ?» L'homme répond, « Mais la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Mais qu'est-ce que tu as fait là ?» Alors la femme répond, « Mais le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Ensuite, toute une série de conséquences que je ne vous donne pas en entier, mais j'arrive sur la fin de ce passage. Les dernières conséquences que Dieu énonce à l'homme et à la femme. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup, jusqu'à la mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme, Adam, donne à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante. En effet, elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme, et il les habille de cette façon. Le Seigneur Dieu se dit, « Eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. Alors le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Et après que le Seigneur Dieu ait chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin d'Éden. Avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens, les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. » Amen. Alors ce matin, on s'attaque à un monument. Quand on parle des fondements, c'est aussi une manière de dire qu'on va visiter des monuments. Et c'est impressionnant de voir juste la postérité de ce texte. On prétend que la Bible n'a plus grand-chose à nous dire. En tout cas, elle inspire toujours des hommes, des femmes au XXIe siècle, puisque effectivement, cette entreprise, la plus grosse capitalisation boursière du monde, la plus importante entreprise, son logo vient directement de ce texte-là, vient directement de ce fameux fruit qui a été mangé, qu'on considère être comme une pomme, mais ça, on n'en sait rien. Il y a trois acteurs dans ce texte. Un serpent, une femme et un homme, Adam. Trois acteurs qui dialoguent les uns avec les autres. Trois acteurs qui échangent, qui sont en relation les uns avec les autres. Ils font ce que peut-être vous découvrez pour la première fois, peut-être que vous savez très bien. Ils vont au-delà de ce que Dieu leur a dit, parce qu'ils sont un peu curieux, ils ont envie d'en savoir plus. Et voilà, il se passe ce qu'il se passe, ils vont au-delà de l'interdit que Dieu leur avait fixé. Et c'est à ce moment-là que dernier acteur fait son apparition dans le jardin. On l'avait presque un peu oublié alors qu'il est présent tout partout en plénitude là. Ce dernier acteur, c'est Dieu. Et à travers ce texte, j'aimerais d'abord souligner quatre éléments qui nous parlent de Dieu. Ce Dieu que l'on adore, ce Dieu que l'on vient de chanter. Avant d'abord de parler de ce que l'homme et la femme ont pu faire dans ce jardin, on va parler peut-être de ce que le serpent a pu faire, plaçons nos regards en premier lieu sur lui, sur Dieu. La première chose qu'il fait, après avoir créé l'homme et la femme, leur avoir donné cet espace de liberté, la première chose qu'il fait, c'est de les appeler. Il sait très bien ce qui s'est passé. Ça n'empêche pas de vouloir à nouveau les appeler et à nouveau de rentrer en relation avec eux. Il ne les laisse pas dans leur coin, dans leur faute, là où ils sont. Première chose qu'il fait, c'est de refaire le premier pas vers eux. Et puis beaucoup d'auteurs, de théologiens disent qu'à travers ce verset là, de Genèse 3, verset 9, c'est déjà le premier évangile qui est à l'œuvre, qui est en œuvre et en marche là maintenant. Au tout début de notre révélation biblique, on voit que ce Dieu en qui nous plaçons notre confiance est un Dieu qui appelle. Ce n'est pas un Dieu qui nous laisse là où nous sommes, c'est un Dieu qui fait le premier pas et qui vient à notre rencontre. Où es-tu ? Il vient nous chercher là où nous sommes et il nous invite au dialogue, il nous invite à la relation. Et c'est lui qui fait le premier pas déjà là, alors qu'on pourrait penser qu'il est très en colère, qu'il a trop de choses à nous dire de mal et tout et tout. Non ? Il va, il se rapproche d'Adam, il se rapproche d'Ève. On remarque dans tout le début de ce chapitre qu'il y a Adam, il y a Ève, il y a le serpent, puis ils sont bien les trois. Et à partir de ce moment où Dieu reprend la parole, on se rend compte qu'il conserve le lead, qu'il conserve la main, qu'il garde la main sur la situation. Il reste souverain, malgré l'apparition du mal, malgré quelque chose d'irrémédiable qui s'est cassé. Dieu garde la main là-dessus. Ce n'est pas parce que le mal est apparu dans le monde que Dieu tout à coup se retrouve désemparé et qu'il ne sait plus quoi faire. Dieu garde la main, Dieu garde le contrôle de toute chose. C'est ça que nous dit aussi cette première phrase, « Le Seigneur Dieu appelle l'homme ». Il lui demande « Où es-tu ?» et ensuite le dialogue s'engage. Dieu garde la main, il pose des questions. Troisième élément, le Seigneur Dieu annonce également des conséquences. La situation n'est plus comme avant. On a toujours un peu la nostalgie de retrouver des jardins d'Éden, des situations où tout serait idéal. Eh bien, ce n'est plus le cas. Il y avait effectivement un Éden, il y avait effectivement une situation de plénitude où tout était fait pour que l'homme soit bien et puis puisse s'épanouir. Ce n'est plus le cas. Et Dieu en prend acte. Il énonce une série de conséquences de la décision, qui découle spécialement de la décision de l'homme et de la femme. Ça nous renseigne quand même pas mal sur Dieu, que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui, d'un revers de main, effacerait toutes les conséquences de nos gestes et de nos actes. Ce n'est pas un Dieu, des fois, qu'on pourrait imaginer tellement tout-puissant que toutes ces conséquences-là, il les balaye puis il dit « Ah non, j'oublie tout » et puis rien ne va se passer. Il restaure la relation, puisqu'il va vers l'homme, mais les conséquences, le travail, les maternités douloureuses, toutes ces conséquences-là qui sont énoncées en fin de chapitre, ces conséquences-là, elles restent et Dieu ne les balaye pas d'un revers de main. Peut-être ça change un peu notre image des fois d'un Dieu qu'on voudrait tout puissant à notre service et puis qui balaye d'un revers de main tout ce qui pourrait nous déplaire. Non, le fait est que nous sommes dans ce monde-là, que Dieu n'a pas voulu tout balayer d'un revers de main, mais qu'il nous invite à l'espérance de ce Dieu, de ce monde qui sera restauré en toute fin. Et puis Dieu, dans une révélation quand même fascinante de la part de l'auteur biblique, qui discerne ce que Dieu se dit en lui-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce verset 22, cette puissance de révélation où l'auteur biblique arrive à rentrer presque de la pensée de Dieu en lui-même et nous livrer ses paroles. Le Seigneur Dieu se dit, et voilà ce que nous transmet cet auteur, « Eh bien l'homme est devenu comme un dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Et maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. C'est extraordinaire, hein, cette révélation, de se dire que l'auteur a réussi à percevoir ce que Dieu se dit en lui-même pour nous le transmettre. Et ce qu'il nous transmet, c'est assez profond quand même, hein, j'ai un peu peur en abordant ce genre de texte, mais une des conséquences de cette décision de l'homme et de la femme, c'est que l'homme se met finalement encore sur le dos, sur les épaules, une responsabilité supplémentaire, puisqu'il en vient à déterminer, et à essayer de déterminer, mais c'est là qu'on va voir qu'on est très limité, à ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu n'avait pas prévu ça pour l'homme à la création. Il pensait que c'était, je pense, au-delà de ses forces, au-delà de ses capacités. Mais l'homme, par sa décision, rentre sur ce terrain-là, et nous y sommes toujours. De savoir décider ce qui est bien ou mal, il force est de constater qu'on n'y arrive pas toujours. De même, et c'est important de le souligner, Dieu n'efface pas d'un revers de main tout ce qu'il a décidé durant la création. Et puis on tombe facilement dans cet écueil de se dire, bon voilà, on est dans ce monde maintenant qui est brisé, il y a cette conséquence de cette décision qu'on appelle souvent la chute. Et pourtant, ce serait une grave erreur de se dire, tout ce qui se passe avant, tout cet ordre créationnel, toute cette volonté de Dieu de la création, elle n'a pas changé d'un iota. La volonté créationnelle de Dieu, le fait que Dieu crée l'homme à son image, à l'image de Dieu, le fait qu'il lui insuffle ce souffle de vie, qu'il le distingue des autres êtres humains, ça reste complètement vrai et 100% vrai. Ça n'a absolument pas changé. Oui, nous sommes dans une autre situation, puis on le voit bien, où la souffrance fait partie de nos quotidiens, le mal fait partie de notre quotidien, mais ça ne veut pas dire que l'intention créationnelle de Dieu n'est changée d'un iota. Il ne balaye pas tout cela non plus d'un revers de main. Quatre choses élémentaires que l'on apprend sur Dieu. Un Dieu qui vient à la rencontre, un Dieu qui assume ce nouvel état de fait, et un Dieu qui garde intacte cette volonté créationnelle qui ne revient pas dessus. Venons-en maintenant du côté de l'homme, de la femme, de ce fameux serpent. On appelle souvent ce qui les anime là, cette volonté d'aller au-delà de la loi de Dieu, on appelle ça souvent le péché. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot péché n'apparaît pas dans ce texte. Je parlerais plutôt volonté d'autonomie. C'est comme si Dieu place une loi pour le bien de l'homme, parce qu'il sait très bien que cette loi est pour son bien, ça reste pour son bien, c'est interdit. Il sait très bien que l'homme va avoir beaucoup de peine à l'assumer, et pourtant, il y a quand même quelque chose qui nous titille de vouloir nous débrouiller de notre propre chef, de vouloir être notre propre loi. Et puis je crois que c'est ça qui se joue fondamentalement dans ce texte, fondamentalement dans ce rapport entre Dieu et les hommes. C'est cette volonté d'autonomie, finalement, et ce refus du rapport de dépendance à Dieu. De se dire, finalement, je vais aussi bien y arriver tout seul qu'avec Dieu. Et puis, tu étais vraiment inspiré, Christian, parce que ce verset que tu as choisi dans Jérémie nous dit exactement ça. Jérémie 9, vous pouvez reprendre, Jérémie 9, 23. Je vous le lis. Le temps que je retrouve sur mon appel. Mais celui qui fait le fier, soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître. De savoir que je suis le Seigneur et que j'agis sur la terre avec fidélité, équité et justice, car c'est à cela que je prends plaisir. Déclaration du Seigneur. Je crois qu'on est au cœur de ce qui pousse Adam et Ève à aller au-delà de ce que Dieu leur a dit. C'est précisément de pouvoir mettre leur fierté en eux-mêmes plutôt qu'en Dieu. C'est ce refus de ce rapport de dépendance avec Dieu. Refus finalement, si on transpose dans des termes plus du Nouveau Testament, refus finalement d'une vie avec le Saint-Esprit. Et ce refus, on pourra en disserter des heures et des heures, d'après moi il est conscient et inconscient. Et là je prends les paroles de l'apôtre Paul dans Romains 7 quand il nous dit « Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. C'est troublant, hein? C'est troublant de se dire qu'on a vraiment quelque chose qui est ancré au fond de nous. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas qu'une décision, une volonté comme ça de notre propre acabit. Mais ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais ce que je hais, je le fais. On est pris là-dedans, puis c'est cette marque du péché qui nous habite. Et puis c'est la conséquence principale pour nous encore maintenant. On est pris dans ce tiraillement de refus de la dépendance avec Dieu, de refus finalement de la vie de l'esprit. Ainsi, notre vie sur terre est un combat permanent. C'est un combat permanent, c'est une lutte finalement. On est toujours sur cette arête entre cette volonté propre qui veut nous guider vers l'autonomie totale et ce rapport subtil et doux de dépendance avec Dieu. On est tout le temps là-dessus. Puis je crois que c'est ça quand on appelle ce grand terme, le péché, c'est simplement de vouloir couper ce lien avec Dieu pour pouvoir nous débrouiller tout seuls comme des grands. Et en tant que croyant, puis c'est pour ça que ce rythme hebdomadaire de pouvoir nous recueillir chaque semaine devant la table du Seigneur, c'est un rappel symbolique, c'est un rappel très fort aussi parce qu'on le vit dans nos cœurs, de se dire et de réaffirmer tout à nouveau notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Puis de dire, oui Seigneur, je me place devant toi, les mains ouvertes devant toi pour que toi, tu me les remplisses. Et ensuite, je vais aller dans la vie poussé par cet esprit-là. Ce n'est pas j'y vais d'abord, puis tout à coup, je compte sur toi. C'est complètement différent. C'est plutôt de dire, je suis les mains ouvertes devant toi, et avec la force que tu me donnes, j'y vais. Parce très certainement que s'ils n'avaient pas eu la grâce d'entendre d'abord Dieu les appeler, certainement qu'à un moment ou l'autre, Adam et Ève auraient appelé Dieu, puis il aurait dit, s'il te plaît, tu peux nous aider, on a vu qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas. Dieu a anticipé leur demande. Si on parle de ce mal, c'est aussi assez intéressant parce que j'aimerais aborder maintenant quelques pistes très pratiques sur savoir comment est-ce qu'on peut le vivre au mieux parce qu'il est là, c'est notre destin. Nous sommes dans ce monde-là, qu'on le veuille ou non. Mais de se dire quelles pistes pratiques est-ce qu'on peut essayer de développer par rapport à notre situation. Et je crois qu'il y a un texte qui, moi, m'habite beaucoup pour vivre cette réalité dans laquelle nous sommes. C'est ce texte qu'on a médité le jour de Pâques, mais on ne s'y est pas attardé dessus, on va s'y attarder un peu plus ce matin. C'est dans Jean 3, 21. « Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. » Et je crois que c'est le verset, en tout cas, qui, moi, me guide dans ce rapport avec le mal, avec la souffrance, avec tout ce mal que je hais et que je fais quand même, c'est de se dire, avec Dieu, on a cette grâce d'être dans sa lumière, sous sa lumière et sous sa grâce. Alors plutôt que de se fermer les yeux et de se dire, ça n'existe pas, on peut être sûr de son accompagnement précisément là où ça fait mal. Et puis j'aime bien ce qu'on a mis sur notre petit texte de présentation pour présenter notre église. On a mis, on ne se réunit pas parce que l'on est parfait, mais précisément parce que l'on est imparfait et que l'on a besoin de Dieu et qu'on en a besoin de sa grâce qui vient nous révéler qui nous sommes vraiment pour nous accompagner, nous tirer plus loin. Pas pour nous laisser là où on est en train de croupir, mais pour nous relever et nous faire aller de l'avant. Alors avec le péché, on a plusieurs écueils qui s'annoncent dans notre vie, qui se vivent dans nos vies quotidiennes. Et il y en a un qui nous est dicté tout à fait de manière évidente par ce texte de Genèse 3, c'est de croire que le péché ou le mal, c'est finalement qu'une réalité extérieure à nous-mêmes. Et puis là, on a deux exemples extraordinaires où lorsque Dieu s'approche de l'homme, qu'est-ce qu'il répond ? La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Donc, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et puis, Ève, qu'est-ce qu'elle répond ? Le serpent qui était là, qui traînait, m'a trompé, clac, clac, et je suis tombé dedans, dans ce panneau. Donc, la première grande tentation, puis le premier écueil conséquent que l'on a avec le péché, c'est de finalement sans cesse porter le défaut ou le problème chez l'autre, soit, bon, mon vis-à-vis. Fréquemment, c'est notre épouse. Regardez un peu les batailles ou bien les conflits de couple. Souvent, on dit toujours oui, j'ai tout fait faux, toi, tu as tout fait juste, bien sûr. On est dans cette tension-là, on est en train de se dire, mais on voit d'abord ce que l'autre a manqué de faire par rapport à ce que nous, peut-être, on a manqué de faire. Ou alors, on place le problème dans les circonstances. Parce que le diable, sous la forme du serpent, on peut appeler ça tout à fait les circonstances. On veut dire, le contexte n'était pas favorable, ça m'a trompé et je suis tombé. Et puis voilà, c'est toujours les circonstances. Et puis moi, je suis finalement une pauvre victime, là au milieu, qui ne sait pas comment faire. Donc finalement, c'est se disculper et puis de se dire, finalement, j'y suis pour rien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors là, c'est un écueil assez conséquent et assez concret que nous vivons, malheureusement, assez fréquemment. Puis là, je pense ce verset de se dire de nouveau, celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, ça nous donne cette confiance nécessaire pour éviter de se disculper. Oui, nous sommes tous sous la grâce, alors ça ne sert à rien de se cacher, puis de jouer aux autruches, puis de faire croire que c'est toujours l'autre, ou bien que c'est toujours les circonstances qui sont notre problème et nos problèmes dans la vie. Même il y aura toujours une part de vrai. Mais le seul élément sur lequel vous pouvez agir, c'est vous, avec l'aide de Dieu. C'est moi, avec l'aide de Dieu. Deuxième écueil par rapport à la réalité extérieure, c'est de croire que le mal qui nous arrive est systématiquement d'origine spirituelle, puis que moi, j'y suis pour rien. Le diable est effectivement une réalité, mais c'est intéressant, toujours dans ce texte, de voir que le diable n'agit pas à la place d'Ève. Il n'est pas en train de la télécommander et puis de lui dire « Alors vas-y, je te prends ça, je te fais ça, et puis ensuite tu vas agir comme ça, puis tu vas mordre dans ce fruit. » Il n'est pas en train de la télécommander. Il lui pose des questions, il lui insinue peut-être un peu un doute, mais après la décision, autant chez Adam que chez Ève, c'est eux tout seuls comme des grands qui la prennent. Ce n'est pas le diable qui les a pilotés. Et puis là, je suis frappé des fois de voir qu'en tant que chrétien, on pense que le diable est si fort qu'il peut nous télécommander, nous pousser à faire différentes actions. Alors c'est déjà se sous-estimer soi-même par rapport à la force que Dieu nous donne, cette force d'être à l'image de Dieu, et c'est aussi sous-estimer la puissance de Christ qui est en nous. Et puis c'est finalement soumettre à une force extérieure, redoutable certes, mais qui ne peut pas nous vaincre comme ça facilement. Oui, il y a un combat, oui, il y a une réalité du combat, mais cette réalité de combat ne doit pas nous entraîner à tout de suite le perdre d'avance. De l'autre sens, on peut croire que finalement le péché n'est qu'une réalité intérieure, puis finalement on efface le serpent et le diable, puis on se dit tout ce qui se passe dans mon petit cerveau, et puis j'ai mes conflits internes, intérieurs, et puis j'évacue de revers de main tout ce qui concerne le monde spirituel. Ça c'est aussi un écueil dans lequel on peut assez facilement tomber, dans notre monde qui est finalement un monde sans Dieu, qui cherche à trouver des explications sans prendre en compte la variable Dieu, la variable spirituelle. On peut tomber dans cet écueil-là, on aura plein de bonnes raisons de le croire, mais là, c'est sous-estimer la puissance de ce monde spirituel qui est une réalité. Et puis, j'ai discuté de cette tension, parce que c'est une tension qu'on a tous, hein, de la vie chrétienne finalement, comment vivre tous ces éléments-là, avec une amie, qui est psychologue, je pense que vous la connaissez pour certains, c'est Marlies Backman. Je me dis, mais comment tu arrives à mettre ces deux éléments ensemble, cette réalité des puissances spirituelles, puis cette réalité aussi de la vie intérieure, où on se pose effectivement pas mal de questions. Puis elle m'a dit quelque chose d'assez intéressant que je vous partage, je n'ai pas son copyright, mais je lui donne volontiers, de se dire que notre rôle, c'est d'essayer d'éviter ou de faire tout ce qui est à notre mesure dans notre relation avec Dieu, pour ne pas laisser prise à ces attaques qui peuvent venir de l'extérieur. Finalement, c'est d'être un peu comme les plumes d'un canard sur lesquelles l'eau peut simplement couler. Elles vont arriver comme l'eau arrive sur les plumes du canard. Simplement, c'est de notre responsabilité dans la prière de former, puis on retrouve le texte d'Éphésiens, cette armure qui peut nous protéger de ces attaques spirituelles. Et ça m'a beaucoup parlé de me dire... Ce n'est pas une question d'analyse, de savoir qui vient de où et quoi ou comment. Ça, on peut parler des heures et des heures sans que ça fasse beaucoup avancer le chemin biblique. Ce qui compte pour nous, c'est de réfléchir à cette armure du chrétien, cette armure du croyant, pour que nous ne laissions pas flanc à ce que l'ennemi arrive en nous. Ne pas laisser flanc. Et la dernière chose, j'en ai déjà parlé, mais je le rappelle parce que je trouve qu'elle est... Je ne me lasse pas de la rappeler. c'est d'avoir une espèce de fascination pour le mal. C'est d'avoir ces deux côtés, ce règne du péché, ce règne de la grâce, et puis finalement d'être tellement fasciné par le péché, puis malheureusement l'histoire chrétienne, je trouve qu'elle est un peu trop fascinée par le péché, qu'on se met tellement sous cette croix, tellement sous cette souffrance, tellement sous ce péché, pensez à toute la tradition du confessionnal, c'est extraordinaire, si on y réfléchit, à voir comment on a pu insister, puis aller grailler, puis aller chercher le péché, puis d'être finalement obsédé par cela, si bien qu'il y a tout qui tourne en boucle, puis qu'on n'a que l'univers du péché qui est le nôtre. C'est vraiment de mettre une croix sur cette victoire du Christ, cette croix sur le ministère de la grâce, pour ne se fasciner, n'être fasciné que par le mal et le péché. C'est une troisième faute, un troisième écueil finalement, qui nous guette dans notre vie chrétienne, dans notre vie, dans notre marche sous la grâce, sous l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de choses, hein, alors j'essaie de vous les livrer comme ça, que l'on puisse vraiment retenir ce texte-là. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées. C'est un texte qui m'est particulièrement cher, je dois vivre un petit mot de témoignage. J'étais directeur de camp il y a quelques années avec mon épouse Myriam. Et puis c'était un camp vraiment compliqué, c'était avec la Ligue, parce qu'il y avait une situation lourde de famille que l'on a appris durant le camp, d'une maman qui venait de quitter le domicile familial pour aller avec quelqu'un d'autre, et les filles l'ont appris durant le camp. C'était pas mal. Et puis une autre situation lourde, encore plus lourde, qui nous arrivait, que je ne vais pas forcément raconter maintenant. Et là, j'ai reçu ce texte de l'Épître de Jean, « Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées. » Parce que c'était finalement une grande grâce que ces deux situations éclosent et qu'elles arrêtent d'être cachées, mises sous le boisseau, mais qu'elles puissent éclore, et qui plus est, en groupe et de manière assez intense. Assez intense parce qu'on a pu s'entourer les uns les autres, on était particulièrement en présence de Dieu pour pouvoir s'apporter les uns les autres, pour pouvoir prier pour toutes ces quatre jeunes filles qui étaient touchées et pouvoir remettre simplement la réalité telle qu'elle se présente devant Dieu. Et je les ai revues, ces quatre filles, et puis elles ont toutes vécu à ce moment-là un moment fort parce que quelque chose qui était là a pu s'ouvrir à Dieu et à la grâce et a pu lui être présenté. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et je crois que cette lumière, elle reste puissante pour nous, elle reste puissante dans tout ce que nous voulons penser et faire dans notre vie quotidienne. Et je nous encourage vraiment à garder cette confiance de la lumière du Christ, de vivre ce temps de scène à l'aube et à l'aune de cette lumière qui nous envahit, cette foi qui est là pour nous. Elle nous permet d'affronter ces réalités de la vie qui ne sont pas toujours roses, mais qu'ils affrontaient telles qu'elles sont. Amen.